Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Nous sommes heureux de recevoir Bastien Bricou, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Devenez mentaliste » aux éditions J'ai lu. Alors Bastien Bricou s'est fait surtout connaître avec l'émission Secret Story 4, où il a révélé son... on va dire dont, on en reparlera plus tard, de mentaliste, et par la suite a écrit ce livre qui est un véritable kit, enfin j'ai envie de dire ça, développement personnel, parce que ça, c'est un livre qui englobe énormément de choses différentes. On va évidemment faire un petit peu le tour ce soir, parce que quand on dit mentalisme, on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Mais en tout cas, dans ce livre que j'ai trouvé écrit avec beaucoup de sérieux et qui est très complet sur ces différentes disciplines, parle autant de PNL que d'hypnose, d'auto-hypnose, de lâcher prise, d'estime de soi. Voilà, on n'est pas censé imaginer qu'on peut mettre toutes ces notions derrière le mot mentalisme. À vrai dire, on ne sait pas quoi mettre derrière ce mot. On en entend parler, c'est vrai qu'il s'est fait connaître grâce à une série télévisée. On a l'impression qu'il faut avoir un don, qu'on n'est pas loin du paranormal. Bon, on va évidemment éclaircir tout ça avec Bastien ce soir. Bastien Bricou, qui par ailleurs a un diplôme d'hypnothérapeute, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse, et on se rend compte en lisant le livre aux sciences humaines depuis longtemps. Vous avez un cabinet de consultation à Bordeaux.
C'est ça.
D'ailleurs. Voilà, donc, première question qu'on va poser, c'est essayer de donner une définition du mentalisme pour essayer d'y voir un petit peu plus clair.
Ben, en fait, c'est simple. Le mentalisme, c'est tout simplement la capacité de mettre son mental en mouvement, c'est-à-dire d'utiliser un maximum d'outils de communication et d'outils de thérapie appliqués au quotidien. C'est-à-dire qu'on va utiliser donc la PNL, donc j'y reviendrai plus tard, l'hypnose, le non-verbal, on va essayer de décrypter un petit peu les personnes qui sont en face de nous pour adapter au mieux notre communication. Et il existe plusieurs formes de mentalisme. Il existe le mentalisme de spectacle, donc c'est un artiste qui a pour but de créer une illusion, il va faire un tour de magie mentale. Ensuite, on a le mentalisme un peu plus ésotérique, qui s'intéresse plus à tout ce qui touche à la clairvoyance, à des dons extrasensoriels. Et puis après, vous avez le mentalisme humaniste, celui que je pratique, qui utilise donc tous ces outils-là, pardon, pour les utiliser au quotidien. Donc, qui peut devenir mentaliste? Tout le monde. On est tous plus ou moins mentalistes, dans le sens où on a des yeux, des oreilles, un cerveau, la capacité de ressentir des choses. Et l'idée, ça va être de décrypter tout ce que tout le monde ressent, tout ce que tout le monde voit, tout ce que tout le monde entend, au travers donc de ces outils-là. Donc voilà, si j'ai décidé d'écrire le livre, c'est pour répondre déjà à la question « qu'est-ce que le mentalisme ?» et puis ensuite, c'est pour donner toutes les bases indispensables, si je puis dire, pour utiliser le mentalisme au quotidien.
Peut-être juste avant que vous définissiez le mentalisme humaniste, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez aussi de ce mentalisme de spectacle et de ce mentalisme ésotérique, et par la même occasion essayer de définir ce que vous appelez vous mentalisme humaniste.
Et bien, ce que je pense du mentalisme de spectacle, c'est simple, c'est que ça existe depuis des centaines d'années, ça fait plus de 200 ans que ça existe. On en parle en France depuis quelques temps, surtout depuis la série américaine The Mentalist qui est arrivée sur TF1. Donc ça, c'est le mentalisme de spectacle. Vous avez partout en France des spectacles de magie, de mentalisme. Ce que j'en pense, moi, c'est que c'est super bien, parce que le mentalisme de spectacle utilise des outils du mentalisme humaniste, comme la PNL. On va communiquer efficacement quelque chose à quelqu'un, on va l'influencer sur des choix qu'il va faire, peut-être pour certains tours. Et donc, c'est très bien que c'est une autre branche du mentalisme. Ensuite, on a le mentalisme, donc, côté paranormal, sciences occultes, qui, là, lui, va s'intéresser plus à tout ce qui touche à la côté clairvoyance, médium.
Parce que c'est vrai qu'on n'en est pas très très loin. Moi, parfois, je me pose la question, au niveau des livres de mentalisme, si je dois les ranger au niveau ésotérisme ou au niveau développement personnel. Parce que c'est vrai que dans ce livre, il est aussi beaucoup question d'intuition. L'intuition, on peut la retrouver aussi sous l'appellation sixième sens. Donc ça peut, voilà, les frontières sont assez ténues avec ce qui est clairvoyance, parapsychologie, ce qu'on appelle
aussi parapsychologie. C'est vrai qu'au niveau de l'intuition, on retrouve quand même des similitudes. Maintenant, le mentalisme humaniste se base surtout sur des études, sur des disciplines qui sont courantes aussi bien dans le management comme pour la PNL, qui sont courantes dans la thérapie comme l'hypnose. Et dans le mentalisme paranormal, on retrouve essentiellement des sciences occultes qui sont beaucoup moins vérifiables. Et l'idée, c'est de pouvoir faire cette distinction. À partir du moment où on peut utiliser l'appellation mentaliste sans se dire « est-ce qu'il y a un don ?» Est-ce que moi j'ai un don? Est-ce que quelqu'un a un don? Le seul don qu'il faut avoir pour être mentaliste, si je puis dire, c'est être amoureux des gens, si je puis dire, qui sont autour de nous, être attentif à ce qui se passe autour de nous et pas être essentiellement concentré sur notre personne. Donc on va faire attention au monde extérieur sans avoir de jugement, sans forcément faire de projection, on appelle ça. C'est-à-dire je vais projeter mon expérience, ma vie, en fonction de ce que je vois. Donc je vais biaiser, perturber, on va dire, l'information par ce que je vois. Et l'idée, c'est un peu de s'effacer, de faire ce qu'on appelle un tri sur l'autre. C'est je vais observer la personne qui est en face de moi pour ce qu'elle est, je vais apprendre à la connaître, je vais apprendre à l'apprécier, tout simplement. Et c'est ça, l'essence même du mentalisme humaniste, c'est d'être le plus flexible possible avec les gens qui nous entourent. Et au travers donc de la PNL, de l'hypnose et des autres outils du mentalisme, on parvient à mieux décoder l'environnement qui nous entoure et surtout à mieux décoder ce qui se passe en nous. Comment se crée un symptôme, comment on peut travailler dessus, comment je peux gérer mon stress avec des petites techniques très simples que je peux rapidement utiliser et rapidement apprendre aux autres qui m'entourent aussi. Et l'idée, c'est d'utiliser tout ça. Donc bien sûr, il n'existe pas un métier de mentaliste, du moins pas encore. Mais en gros, tout le monde peut utiliser le mentalisme aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle.
Ben justement, on va en parler peut-être un petit peu. Donc on a bien compris que le mentalisme n'est pas un don. Tout le monde peut pratiquer aussi, c'est presque un art de vivre en fait. Donc on parle d'outils depuis tout à l'heure, on parle de PNL. Est-ce qu'on peut essayer d'y voir un petit peu plus clair? Donc au niveau des outils à utiliser, la PNL, l'hypnose, l'auto-hypnose... les états de conscience modifiés sont des éléments qu'on retrouve dans le livre. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu?
Bien sûr. Alors, donc, l'hypnose, je commence par l'hypnose?
Comme vous voulez.
L'hypnose, okay. Ça existe depuis... on retrouve les premières traces de l'hypnose il y a moins 3000 ans avec les Sumériens. On a retrouvé des choses assez intéressantes aussi chez les Égyptiens qui utilisaient l'hypnose dans le fameux livre des morts. Et puis même dans d'autres écrits, on retrouve carrément des écrits qui expliquent, selon les Égyptiens de l'époque, qui aurait comme une énergie qui circulerait entre les personnes, et suivant ce qu'on dit, ce qu'on ordonne, il se passe quelque chose chez l'autre. Et puis ensuite, on a bien sûr, plus dans notre époque, on a Mesmer, les travaux de Mesmer, Charcot, et puis plus récemment, on a Milton Erickson qui a inventé l'hypnose ericksonienne, celle que j'utilise moi en thérapie, et qui est une hypnose, on va dire, moderne, parce qu'on n'a plus un côté dominant-dominé, comme vous pouvez voir souvent à la télévision, dormez, la personne tout de suite part en transe, là on se dit mince, qu'est-ce qui se passe, pourvu qu'il ne me le fasse pas, ça se trouve ça n'existe pas, etc. On a donc un pourcentage assez limité de personnes qui sont réceptives à cette hypnose. On est passé de ça à une hypnose plus moderne, où là on a 100% des gens qui entrent en état modifié de conscience, parce que cet état modifié de conscience qu'on appelle la transe en hypnose, eh bien, c'est un état naturel que vous connaissez tous. C'est-à-dire que toutes les 20 minutes, pendant quelques secondes, quelques fractions de secondes, on a la tête un petit peu dans la lune. C'est une expression tellement vraie en même temps. Et c'est ce moment-là où on se retrouve en état modifié de conscience, où le cerveau droit, donc où siège l'inconscient, se ressource, se recharge en énergie. Et donc, quand on est dans cet état-là, on a un accès plus direct avec son inconscient. Si vous avez le permis, vous êtes sans doute aperçu peut-être un jour, mince, j'ai pas fait attention au stop, au feu, je suis quand même arrivé chez moi. Je me rappelle plus trop de la route, mais pourtant je suis là. Ou alors au cinéma, vous êtes tellement dans votre film que vous faites abstraction complète des gens qui vous entourent, du temps qui passe. Et c'est ça l'état modifié de conscience. La transe, l'hypnose en général, c'est qu'en gros, d'un seul coup, on crée une dissociation entre le conscient et l'inconscient parce qu'on est focalisé sur quelque chose. Vous regardez, en ce moment, ça marche bien, les débats politiques ou un meeting, peu importe le candidat. D'un seul coup, si vous êtes happé par ce que la personne vous raconte, vous ne faites plus forcément attention au temps qui passe. Et c'est ce moment-là où on rentre dans l'état modifié de conscience. D'un seul coup, on va pouvoir être dans un état de cérébral qui permet à l'inconscient de devenir plus malléable. Et donc, l'hypnose, c'est ça. C'est de retrouver cet état. L'hypnose, c'est à la fois un état et un outil. L'état, l'outil qui me permet d'entrer dans cet état et surtout qui va permettre à tout à chacun de travailler sur soi. Parce que c'est, généralement, quand on a un symptôme, quand on a quelque chose, on se dit, ben moi, j'ai envie de changer. Et pourtant, on a le fameux « c'est plus fort que moi, j'y arrive pas ». J'ai beau tout essayer, j'y arrive pas. Dès que j'arrive sur le moment, ben j'ai le stress qui monte. Pour ceux qui sont stressés, j'ai de l'angoisse, etc. Pour les personnes qui « allez, ce soir, je dors », et ben c'est plus fort que moi, j'arrive pas à dormir. Ben c'est l'inconscient qui gère 90% de ce qu'on est, de toute cette énergie cérébrale, de toutes ces informations-là, c'est géré par notre inconscient. Et l'idée, c'est de pouvoir rentrer en communication avec son inconscient pour changer, pour améliorer des capacités, pour transformer ce qui est moyen en bon, ce qui est mauvais, on va le supprimer. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces techniques-là dans le quotidien, d'utiliser quelques techniques d'hypnose, d'auto-hypnose, et bien dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi de l'hypnose conversationnelle, comment on va pouvoir intéresser les gens, comment d'un seul coup les gens vont être focalisés sur ce qu'on leur raconte, comment on va délivrer un message universel. Et ça, c'est l'essence même aussi de l'hypnose. Ensuite, la PNL.
Alors, juste pour revenir sur l'hypnose, est-ce que vous pourriez citer une ou deux techniques, justement, qu'on peut pratiquer au quotidien ?
D'auto-hypnose ?
D'auto-hypnose.
D'auto-hypnose, bah, y en a plein.
De choses simples, si c'est
possible. Il y en a plein, et on en parlait tout à l'heure avec diverses personnes. En gros, l'idée, c'est de retrouver un état modifié de conscience. Et comme j'explique dans le livre, il y a plein de techniques simples. On se retrouve dans la vie de tous les jours, eh bien, happé par nos pensées. C'est simple, à partir du moment où on est là physiquement et que mentalement on commence à partir ailleurs, ben on commence à entrer dans un état modifié de conscience. Il y a des techniques simples, on ferme les yeux, on pense à la respiration, quelque chose qu'on fait presque jamais. Qui c'est qui se dit dans la journée, tiens, comment je respire ? Parce qu'on est tellement happé par tout ce qui nous entoure, par nos besoins quotidiens, notre rythme de vie, qu'on ne se rend même plus compte de comment on respire. Est-ce que je respire bien, déjà ? Ça, c'est une question. Est-ce que je respire normalement ? Et en gros, on va penser à cette respiration-là. Puis ensuite, on va faire attention aux éléments visuels qui nous entourent, aux éléments sonores qui nous entourent. En fait, on va se connecter dans le présent. Et en se connectant dans le présent, en même temps, on se connecte avec nous-mêmes. On rassemble nos sens, on les utilise, on fait une spirale sensorielle, où plus ça va aller et plus on rentre à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'on entre en état modifié de conscience et qu'on peut commencer à travailler sur soi par l'auto-hypnose. Bien sûr, si on a des grosses pathologies, l'auto-hypnose, ça sert à gérer la douleur quand on nous l'a appris. Mais l'idéal, c'est quand même de consulter un hypnothérapeute ou un psychothérapeute qualifié qui pourra nous guider. Avec l'auto-hypnose, on ne peut pas tout guérir. Mais on peut quand même travailler sur soi sur un moment donné. La PNL va permettre aussi de travailler sur soi. On va travailler sur soi, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Ça a été inventé par deux personnes, Richard Bandler et John Grinder, dans les années 70, fin des années 70. Et puis, ils se sont intéressés essentiellement à l'hypnose, comment ça marchait, comment Milton Erickson, l'inventeur de l'hypnose moderne, fonctionnait, comment c'était possible qu'en disant quelque chose, même des fois, il disait rien, il se passait quelque chose. Comment il faisait ? Alors, il regardait, eh bien, en continu des petites séquences de Milton Erickson, et ils ont pu, eh bien, créer des protocoles qui sont utilisables dans la vie de tous les jours par les vendeurs, un bon vendeur, généralement, il a été formé en PNL parce qu'il va rentrer dans votre structure émotionnelle, il va vous manipuler d'une certaine façon, où il répond à des codes, à des protocoles, à des schémas de manipulation qui sont utilisés en PNL, donc dans un cadre commercial. La PNL, c'est savoir communiquer avec soi-même et puis apprendre à communiquer avec les autres. C'est comment je peux être moi, mais en mieux. Et donc, on n'est pas obligé, avec la PNL, d'entrer dans un état modifié de conscience profond pour travailler sur soi. On peut facilement, on ferme les yeux, on a des images, parce que voilà, le simple fait de penser à quelque chose, par exemple, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qu'on voit et ce qu'on pense. Si vous pensez à quelque chose qui vous fait du mal, vous allez ressentir le mal. Parce que cette partie du cerveau-là, pense que cette chose-là, elle est en face de nous. Si vous pensez à quelque chose qui vous donne envie de manger, vous allez saliver. Parce que le cerveau, il pense, il y a une partie de notre cerveau qui ne sait pas faire les distinctions. Donc l'idéal, en PNL, c'est on nous apprend à faire beaucoup de visualisation positive, travail sur ce qu'on appelle les submodalités, comment on va travailler avec notre passé, comment on peut agir dessus avec des techniques toutes simples. La PNL, c'est vraiment simplifier, rendre plus efficace certaines pathologies en trouvant des solutions, des techniques que tout le monde peut utiliser. Tout le monde. Moi, j'ai commencé à la PNL, j'avais 16 ans. Au début, je me disais, bon, c'est quoi ? Comme l'hypnose, hein. Je me dis, bon, c'est quoi ? J'ai vu ça à la télé, bon. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'utilisais déjà la PNL pour diverses choses. Et puis, en fin de compte, ça marche bien. Et puis, c'est facile de montrer à quelqu'un, tiens, essaye de faire ça, et constate comment ça fonctionne. Et le mentalisme utilise la PNL, donc, dans l'application au quotidien. Comme l'hypnose, comme le non-verbal. Parce que le non-verbal, c'est un outil majeur aussi dans le mentalisme. Ça va être ce que je vois, eh bien, je vais l'interpréter. L'interpréter en fonction de certains critères. Pas en fonction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de mon expérience. Parce qu'on ne rentre plus dans un préjugé.
Donc le non-verbal, c'est le langage des gestes pour...
Les gestes, le visage, les micro-expressions faciales. Mm-hmm. Bien sûr, sur le non-verbal, vous pourrez lire des dizaines et des dizaines de livres dessus en vous disant « Attention, vous croisez les bras, ça veut dire que vous êtes fermé à la communication. » Ce qui n'est pas vrai. Quand on croise les bras, on n'est pas forcément fermé à la communication, on se met en retrait. On se met juste en recul. Je ferme ma bulle, on a tous une bulle, généralement à la longueur de notre bras. Je ferme cette bulle-là et je fais attention à ce qui se passe autour de moi. Je ne voudrais pas qu'il y ait des mauvaises informations qui rentrent. Mais en aucun cas, je me ferme à la communication. Ferme à la communication, pour l'exemple, ça serait de fermer les poings, comme les enfants. Va prendre ton bain. Non. Là, on est fermé à la communication, c'est strict. Donc, c'est plein de choses comme ça où il faut éviter de mettre des dogmes. Sur le non-verbal, c'est « attention, vous vous grattez l'œil », ça veut dire que « bah non, ça serait trop facile, on serait des automates, on répondrait exactement aux mêmes critères, aux mêmes caractères, on aurait exactement la même éducation ». Non, c'est pour ça que le mentalisme, on s'intéresse à la personne, on apprend à la connaître, on apprend vraiment à l'apprécier et à faire attention à comment elle agit, comment elle réagit. Ce que je vois comme geste, est-ce que dans un autre contexte, je le reverrai, etc. Donc ça, c'est pour le non-verbal.
Je rebondis aussi sur la notion de manipulation, parce que quand on parle là de non-verbal, on pense donc au geste, la manière dont on décrypte un espèce de langage codé. Et quand on pense au mentalisme, on peut penser aussi à manipulation. Est-ce que justement, tout ça, c'est un moyen de déjouer les manipulations des autres, ou de manipuler les autres,
Ça dépend le caractère des gens.
Ouais.
Il y a des personnes qui vont se servir des techniques pour manipuler négativement, si je puis dire. Parce que le terme manipulation, malheureusement, en France, il est assez connoté négatif quand même. Malheureusement, pourquoi ? Parce qu'on est obligé de manipuler. On ne peut pas, dans notre société, ne pas manipuler. Vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un. Si cette personne-là décroche, vous l'avez manipulé. Vous appelez un serveur dans un bar, il vient, vous le manipulez. À la naissance, on nous manipule. Donc en gros, ça va être de différencier qu'est-ce qu'une bonne manipulation d'une mauvaise. Une bonne manipulation, c'est quand il y a du gagnant-gagnant. Une mauvaise manipulation, c'est quand il y a un gagnant et un perdant. Et l'idée, c'est qu'avec le mentalisme, on peut identifier un maximum de manipulations. Pas pour s'en servir, ou alors quand on en a vraiment besoin. Mais l'idéal, ça va être surtout de les déjouer. Savoir court-circuiter rapidement une manipulation. Savoir aussi se rendre compte quand est-ce qu'on manipule nous-mêmes. Parce qu'en fait, on se dit, ouais, mais c'est les autres qui nous manipulent, mais généralement, on a du mal à penser que c'est notre propre personnalité qui peut manipuler. On le voit tout le temps dans les couples, dans la famille. Si je dois donner un exemple, je donne un exemple.
Bien sûr.
La manipulation dans le couple, ce qu'on voit, ou même dans la famille, c'est qu'on voit presque tout le temps, c'est le choix illusoire. Le choix illusoire, ça va être de faire croire à la personne en face de vous qu'elle a le choix et qu'elle est libre de choisir. Exemple simple, vous avez un couple, voilà, il y a une personne qui hésite entre manger chinois ou manger italien. Et au lieu de poser la question « qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?», la question toute simple, ça va être « tu préfères manger italien ou manger japonais ce soir ?» Ça, c'est un choix illusoire. Un enfant, tu préfères prendre ton bain avant ou après avoir mangé ? Ça, c'est un choix illusoire. Bien sûr, ça ne marche pas jusqu'à 18 ans. Généralement, à 8-9 ans, ça commence déjà à non, aucun des deux. Donc là, on commence à déjouer la manipulation. Mais dans la vie de tous les jours, sans s'en rendre compte, hop, on a une question qui peut venir comme ça. On ne se rend même pas compte que c'est un choix illusoire et on rentre dedans. Chez Air France, par exemple, pendant longtemps, je me rends compte aussi quand je prends l'avion, quand ils vous servent une boisson, ils ne vous demandent pas si vous voulez, vous savez, les petits gâteaux. Ils vous demandent tout de suite, vous préférez sucré ou salé ? Ça, c'est un choix illusoire. Derrière, il y a des stocks, enfin bref, il y a toute une étude où il faut que les gens consomment. Mais voilà, ça c'est une technique simple de la manipulation. Mmh. La manipulation dans le mentalisme, c'est important de les décrypter parce que c'est la question qui revient souvent. Ah, mentaliste, c'est un manipulateur. Bah, les gens se posent cette question et c'est normal. Quand on regarde la série The Mentalist, il est plutôt bon en persuasion, en schéma de manipulation. Il est plutôt bon aussi. Maintenant, la série, ça reste une série à 99%. Et dans les 1% de vraisemblance, on a de temps en temps un petit peu de mentalisme de spectacle. Et puis, on a aussi des bonnes techniques de manipulation utilisées. Mais ça reste quand même de la fiction. Et c'est important de le savoir, quoi. On aurait pu l'appeler l'expert ou Sherlock Holmes, ça aurait été presque la même chose. Il faut qu'en 40 minutes, en 45 minutes, l'affaire soit résolue. Donc, s'il y a des personnes qui pensent qu'en si peu de temps, on peut résoudre une affaire.
Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de lire ce livre, parce qu'on se rend compte que voilà, ce n'est pas simplement quelque chose qui vient d'une série, ce n'est pas une espèce de manipulation gratuite ou grâce à laquelle on peut arriver à nos fins. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un art de vivre, en fait. C'est un chemin d'éveil, on peut dire aussi. C'est une voie de développement personnel qui englobe énormément de choses.
En gros, ce sont toutes les bases pour travailler sur soi, pour apprendre à se connaître et apprendre à connaître les autres. Parce que les gens me disent « Ouais, mais comment ça fonctionne la manipulation? Comment on détecte le non-verbal ?» Et je leur dis « Mais est-ce que déjà vous savez comment vous fonctionnez? Est-ce qu'avant de savoir si on se fait manipuler, est-ce que déjà on sait pourquoi d'un seul coup quand on rentre dans un endroit on se sent mal, pourquoi telle situation est plus stressante qu'une autre, non, les gens ils font la barrière avec eux-mêmes pour tout de suite aller je m'intéresse à l'autre. Et l'idée c'est de revenir un petit peu à l'essence, c'est je travaille sur moi avant de travailler sur l'autre.
Et on se rend compte parce qu'il y a toute une partie consacrée à l'estime de soi. Je sais que c'est un sujet abordé aussi en librairie. On a beaucoup de demandes et les auteurs qui sont penchés sur la question sont des auteurs qui marchent souvent très très bien. Donc la question de la confiance en soi, c'est une question qui est récurrente et c'est vraiment au cœur de ce livre.
C'est au cœur de la société aussi.
Oui.
Je le vois même en thérapie. J'ai de plus en plus de monde qui consulte pour de l'estime de soi. Mmh. Et ça, c'est un problème quand même important, parce que qui peut plus avoir confiance en soi que soi ?
Oui, après...
Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir se rendre compte qu'avec certaines techniques, on peut retrouver de la confiance en soi, et de l'estime de soi. Parce que voilà, on est parti pour vivre un bon bout de temps avec soi-même. Donc si on ne peut même pas avoir confiance en soi, c'est un petit peu dommage. Et surtout, on se bloque plein de possibilités. Et travailler sur soi, c'est sur de la confiance, sur de la gestion du stress, être capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Ça, c'est aussi une base fondamentale du mentalisme. C'est peu importe la situation, je m'y adapte plutôt que je m'y confronte. Je la subis, cette situation. Non, là, je vais la vivre pleinement. Et puis, elle peut sûrement m'apprendre quelque chose. C'est aussi ça.
Justement, en parlant de votre travail au quotidien, quelles sont les demandes les plus fréquentes que vous avez, auxquelles vous avez affaire
L'arrêt du tabac.
Ouais, normal.
L'arrêt du tabac, ça marche très bien. Moi, j'ai plus de 90% de réussite à la première séance. Parce que l'arrêt du tabac, c'est franchement, c'est d'une simplicité, arrêter de fumer par l'hypnose. Parce que les gens pensent que c'est l'addiction qui les tient au tabac, et en fait, ce sont les compulsions. L'addiction, c'est la nicotine. Si vous arrêtez de fumer tout de suite, pendant quelques jours, on va dire la première 48 heures, vous avez 50% de la nicotine qui se dissipe, et après, vous avez quelques jours encore avec un peu de nicotine. Mais pourtant, ce n'est pas ce qui fait arrêter un fumeur. Parce qu'il dit « Ah non, j'ai encore besoin de fumer ». C'est les compulsions inconscientes. Les compulsions inconscientes du fumeur, en général, c'est la détente. Et j'ai besoin de me détendre. J'ai besoin de me détendre, je suis énervé, il faut que je prenne une clope. Ça revient tout le temps. J'ai besoin d'un moment de plaisir. Donc on retrouve du plaisir. Du plaisir, de la détente, du contrôle. Les personnes, ça leur donne un sentiment de contrôle aussi. Mais vous, du jour au lendemain, vous prenez votre cigarette, vous la posez et vous dites « Allez, à partir de maintenant, j'arrête ». Si vous n'avez pas compensé toutes ces compulsions-là, ben votre inconscient, il fait non. Parce que qu'est-ce qui va me permettre de retrouver de la détente, du plaisir et du contrôle si j'ai rien d'autre? Donc l'inconscient sait parfaitement que c'est nocif. Mais il y a tellement d'avantages que d'inconvénients qu'il préfère garder cet outil-là, la cigarette, pour vivre plus heureux, mieux. On a besoin de trouver ça. Et donc c'est pour ça que quand je travaille avec les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, je travaille sur les compulsions. Parce que en m'adressant directement à l'inconscient, à travers des techniques, eh bien, les transferts de ces compulsions-là se font naturellement. Et la personne se rend compte que ça passe comme une lettre à la poste. Vous pouvez prendre des patchs, certes, vous allez pouvoir travailler sur la nicotine, donc sur le côté addictif, mais vous ne travaillerez pas non plus sur le côté des compulsions. Donc c'est pour ça que ça marche très bien. J'ai beaucoup de phobies. L'hypnose travaille parfaitement bien avec les phobies. Donc j'ai eu les phobies à l'avion, j'ai eu des phobies assez étranges parfois, la phobie des limaces, j'ai eu la phobie des nuages aussi, enfin j'ai eu pas mal de phobies. Comme quoi, en plus, il y a autant de phobies qu'il y a de phobies. C'est-à-dire qu'une personne, je vois beaucoup de personnes qui ont la phobie des araignées, mais chacun a sa phobie de l'araignée. C'est pas juste l'araignée, non, c'est l'araignée noire, ou c'est l'araignée qui court, c'est la petite, c'est la grosse, enfin chacun a sa propre définition. Et donc ça, c'est aussi un nombre important de personnes que je peux rencontrer. En plus des dépressions, en plus la gestion du poids. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait tous les régimes, mais elles ne maigrissent pas. Elles font tous les régimes, il n'y a rien qui fait. Et l'idée, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui bloque au niveau inconscient, pour que d'un seul coup, ça lâche et que la personne retrouve un poids qui lui est plus acceptable. On peut travailler aussi dessus.
Ça, c'est le genre de choses avec lesquelles on travaille avec un spécialiste, ou est-ce qu'on peut travailler dessus avec l'auto-hypnose? Est-ce qu'il y a des exercices qui existent que l'on peut faire seul?
On peut travailler avec l'auto-hypnose aussi pour la préparation à l'arrêt du tabac. On peut travailler l'auto-hypnose sur la gestion du stress, la confiance en soi, la gestion des peurs, presque toutes les phobies. Après, quand ça touche quelque chose de plus, beaucoup plus pathologique, comme une extrême boulimie, une extrême anorexie, là, il faut consulter. Il n'y a pas de remède miracle, il faut consulter, parce que la personne, elle a beau vouloir, elle a beau travailler dessus, eh bien, il y a des parties inconscientes qui bloquent. Et là, on fait un travail vraiment sur ce que la personne ignore d'elle-même. Parce que l'inconscient, c'est tout ce qu'on ignore de soi. L'inconscient, c'est « Ah mince, j'ai oublié, tout ce qu'on a refoulé, ah j'ai oublié », puis d'un seul coup, hop, il y a une image qui revient. Bah, c'est qu'elle n'était pas perdue, c'est qu'elle était stockée. Donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas débloquer seul, mais il y a quand même beaucoup qu'on peut débloquer soi-même.
Peut-être peut-être que certaines personnes ont des questions éventuellement à poser à Bastien. Moi, j'en aurais éventuellement d'autres si personne ne veut prendre la parole.
Que pensez-vous de l'hypnose en milieu hospitalier ?
Génial, ça arrive enfin. Aux États-Unis, ça fait tellement longtemps que c'est en place. L'hypnose en milieu hospitalier, c'est pour les anesthésies, vous parlez ? Pour les anesthésies, c'est super. Tout parent, pendant un bon moment, a la capacité d'anesthésier ses enfants. Vous vous souvenez du bisou magique ou pas ? Ah, je me suis blessé, j'ai un bobo, nanana. Je vais te faire un bisou magique et t'auras plus mal. Ben, cette suggestion-là, l'inconscient, il la prend tout de suite comme bonne et l'enfant, il a plus mal. Ça, c'est une anesthésie super simple. Bien sûr, en bloc opératoire, on ne va pas dire « je vous fais un bisou magique, vous allez voir ». Mais c'est de plus en plus utilisé. À Rennes, notamment au CHU de Rennes, où ils font une thyroïdectomie, on vous enlève la thyroïde sous hypnose. Ça fonctionne parfaitement bien. La preuve, c'est qu'ils en ont fait un DVD que vous pouvez trouver sur Internet. Vous pouvez voir carrément l'opération entière. Pour info, l'histoire, Milton Erickson est venu en France en 62 ou 64, je ne me souviens plus. Et puis, c'était je ne sais plus quel magazine, je ne sais plus si c'était Science et Avenir, qui avait, Science et Vie, qui avait mis un gros titre, L'avenir de la science. Il était venu, il avait fait une conférence en expliquant comment ça fonctionnait. Et il avait fait une démonstration, une personne, je crois, qui devait se faire enlever l'appendicite. Et on voit la photo dans le magazine, on voit la personne en train de fumer une cigarette. À l'époque, c'était pas en train de fumer une cigarette, un grand drap blanc, et il se faisait enlever. Et il y avait Milton Erickson qui était à côté en train de lui parler, normal. Et là, les gens disaient « Ah, oh, c'est incroyable !» Après, derrière, il y a beaucoup de divergences qui sont arrivées derrière, où on a un côté en France assez fermé, où tout prend du temps. Où on revient à certaines choses. On l'a vu avec l'ostéopathie qui a mis énormément de temps à s'inscrire. Mais plus ça va et plus on ouvre les yeux, on ouvre les oreilles. Il faut savoir aussi qu'en France, dans les années 70, malheureusement, il y a eu beaucoup de charlatans qui ont utilisé l'hypnose de spectacle pour complètement casser l'image de l'hypnose. On voyait des complices dans le public, on voyait tout et n'importe quoi. Donc il y a eu une image derrière qui a été malheureusement un petit peu égratignée. Et en ce moment, on y revient. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, moi, j'utilise la sophrologie ». Et peu de personnes savent que Caicedo, l'inventeur de la sophrologie, s'est basé sur des travaux d'hypnose et de yoga pour créer la sophrologie. Donc, quand on utilise la sophrologie, on utilise un peu d'hypnose. Donc, en gros, l'hypnose, sophrologie, c'est des états modifiés de conscience. C'est, en gros, de croire à quelque chose et ne pas croire en l'autre, c'est un petit peu délicat. Mais voilà, c'est vrai que dans le milieu hospitalier, je trouve ça très très bien. Même dans la gestion de la douleur, les grands brûlés. Quand vous voyez des personnes qui souffrent énormément et que vous savez que la douleur est une information. La douleur, c'est juste une info. C'est une information qu'on peut contrôler. Et dans cette douleur, il y a un pourcentage de cette douleur-là qu'on ressent qui est issu d'un fantasme cérébral. Si c'est grand et profond, c'est que ça doit faire mal. C'est ce qu'on retrouve souvent. Si c'est ça, c'est qu'il y a ça. Je me réfère à quand j'étais petit, à l'ancienne douleur, donc ça doit faire plus mal, parce qu'il fait beaucoup d'hypothèses comme ça, et on se met à sentir des douleurs qui sont surjouées. Et avec des techniques simples, même d'auto-hypnose, on peut travailler dessus. Et moi, ça m'arrive d'apprendre à des personnes qui souffrent de douleurs, eh bien, des techniques d'auto-hypnose simples, et d'un seul coup, ils disent « Ah, c'est incroyable, le temps d'un instant, 15 minutes dans ma journée, 30 minutes dans ma journée, 1 heure dans ma journée, j'ai plus mal. » Ça, c'est génial. Et c'est simple à mettre en pratique. Donc, je trouve ça bien que ça rentre à l'hôpital.
Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser ? Madame ?
Quand les personnes arrêtent de fumer, mais c'est pour toujours après ?
Alors, ça dépend d'elles. Si elles ont envie un jour de se dire « Ah tiens, je m'en refumerai bien une », c'est leur problème. Mais en fait, on ne peut pas savoir si c'est pour toujours. Il ne va pas y avoir cette envie. Par exemple, c'est sûr que dans les 6 mois, 1 an, vous n'allez plus avoir d'envie. Sauf si vous vous dites « Bon, allez, je me remettrai bien à la cigarette. » Mais c'est vous, consciemment, qui vous direz « Allez, je m'y remets. » Limite, vous vous reforcerez comme au début, quand généralement, les personnes commencent assez jeunes. « Allez, c'est pas bon, mais bon. » Et puis, là, la nicotine va retrouver sa place, et puis on va retrouver des nouvelles compulsions, etc. Il y a des personnes qui arrêtent de fumer. Moi, j'ai vu un monsieur qui fumait 6 paquets de cigarettes par jour. Ça existe. Et sa femme en fumait 4. Donc à eux deux, ils étaient bons.
Moi, je ne sais pas où on trouve le temps de fumer autant de cigarettes par jour.
Ils me disent, et en plus, bon, bien sûr, vous avez le visage qui...
Ou alors, il faut vraiment les
la
fumer.
La personne, fume, le visage, enfin, l'odeur, enfin bref.
Ouais, ouais.
Et cette personne-là, elle a fait la séance avec moi. Et je demande systématiquement aux personnes que je vois de me donner des nouvelles dans les 3 semaines. Pourquoi ? Parce qu'au moins, on est sûr qu'il n'y a plus la nicotine et que les compulsions, au revoir. Parce que si je leur dis, bon, vous me dites demain si vous avez arrêté de fumer, s'ils sont dans la période, allez, je suis dans le sevrage, etc., ils vont arrêter, ils vont dire, ah, c'est bon, j'ai arrêté. Mais je leur demande exprès un bon laps de temps pour savoir où ils en sont. Et ils ont arrêté à la première séance. Après, il y a des personnes, ça ne marche pas à 100%, parce que pour les 10% de personnes sur qui ça ne prend pas, c'est des personnes qui ne sont pas prêtes à arrêter de fumer. Qui disent, bon, c'est ma femme qui m'envoie, alors maintenant, je ne les prends plus. Personne, je leur dis, bon, bah, vous savez quoi, allez-y. Ah ouais, mais moi j'ai dit à ma femme que je venais. Ben, je dis, moi, si vous voulez, vous lui direz que vous êtes passé. Ouais, mais elle va pas me croire.
Vous pouvez leur apprendre à ne plus se faire manipuler par leur
femme. Non. Je leur dis, voilà, si vous avez pas envie, c'est comme donner à boire à quelqu'un qui a pas soif. Si la personne elle est motivée derrière, c'est qu'il y a une part d'elle-même qui dit, il serait temps de changer. Et hop, ça marche super bien. Avec les techniques que j'emploie avec cette personne-là, ça sort, on passe à autre chose, et la personne, elle repart, elle est boostée. Et elle est prête, voilà, à redevenir non-fumeur. Et c'est sûr qu'il y a encore un faible pourcentage de personnes qui n'arrêtent pas de fumer. Mais ce que je constate, c'est que les personnes réduisent. On passe aussi à des personnes qui ont envie de garder juste le petit instant de plaisir, comme le verre de vin. Donc ça se peut aussi. Mais les personnes, elles arrêtent de fumer. Moi, j'ai pas vu 2 fois la même personne pour l'arrêt du tabac. Donc c'est que ça... Ça passe bien. Et puis en plus, c'est généralement des personnes qui en parlent à d'autres, qui en parlent à d'autres, qui en parlent à d'autres. Donc avant, je ne demandais pas qu'on me tienne au courant. Et donc j'apprenais par des tiers que la personne elle avait arrêté de fumer. Donc c'est... Et je revois même des personnes. Ah, vous avez fait arrêter de fumer mon cousin il y a 2 ans. Donc voilà, il y a toujours 2 ans après, si vous... la personne n'avait pas refumé.
Enfin, il faut quand même à la base avoir envie d'arrêter de fumer.
Il faut juste avoir envie. J'ai envie d'arrêter de fumer et j'ai envie que quelqu'un m'accompagne sur ce chemin-là. Mmh. Super. Et en plus de ça, voilà, ça peut être aussi la cigarette. Après, ça peut être aussi au niveau de l'alcool, au niveau de plusieurs autres addictions. Où là, bien sûr, une seule séance pour certaines drogues, ça ne suffira pas. Il faudra un suivi beaucoup plus long. Parce que là, il y a vraiment des sevrages qui sont longs à faire. Mais c'est le même principe. C'est de passer à quelque chose, passer de quelque chose qui nous animait, qui comblait, à quelque chose de nouveau, sain, qui permet de retrouver exactement les mêmes bénéfices.
Lors d'une séance, est-ce qu'il y a perte de conscience, comme on imagine souvent
Alors, est-ce qu'on perd réellement conscience quand on est en hypnose? Non. Non. L'état le plus profond qu'on peut atteindre, c'est l'état somnambulique. C'est que vous ne vous rappelez plus que vous étiez en transe. Ça m'arrive de tomber sur des personnes qui, au bout d'une séance, ils sont très réceptifs. Elles se mettent à avoir la tête un peu penchée, les yeux un peu révulsés pour certaines. Mais en général, non. On est, surtout en première séance, on est très lucide. Parce qu'on a les yeux fermés, mais on a l'observateur caché, la conscience, qui fait super attention à ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça se trouve, je vais tomber dans les... J'ai pas envie de faire quelque chose que j'ai...
Oui, voilà. Je pense que c'est, chose.
Voilà.
C'est ce
donc,
qui peut
faire
peur aussi.
Il y a plein de croyances qui nous bloquent. Et puis à la seconde séance, on va un peu plus loin. Troisième séance, on est complètement ailleurs. C'est simple, à partir du moment où on n'a plus la notion du temps, les personnes me disent « Ah, j'avais l'impression que ça allait durer 10 minutes. »« Ah, mais ça fait 3 quarts d'heure que vous avez les yeux fermés. » Les personnes partent. Et en fait, ce qui est bien quand on est dans un état modifié de conscience, c'est que 5 minutes dans cet état-là, ça correspond à plus de 20 minutes de sommeil récupérateur. Donc vous cumulez, c'est plutôt bien. C'est pour ça qu'il y a les skippers qui apprennent l'auto-hypnose, en plus des sommeils polyphasiques, pour apprendre à dormir que 2 heures par jour et avoir la patate, comme on dit, pour avoir suffisamment d'énergie pour tenir le tour du monde en solitaire. Parce qu'il faut qu'ils soient maximum, dans un maximum état d'éveil, il faut que... Voilà, et puis derrière, des techniques simples, hop, ils travaillent sur eux, sommeil polyphasique plus... l'auto-hypnose, et ils font le tour. Sur l'inconscient, rapidement, qu'est-ce qui différencie vraiment le conscient de l'inconscient ? Il y a une chose très simple à vérifier, c'est que consciemment, on peut faire 7 plus ou moins 2 choses par seconde. Alors, je m'explique. Il y a des personnes qui peuvent faire 5 choses en même temps, consciemment. Il y a des personnes qui peuvent en faire 7 et il y a des personnes qui peuvent en faire 9. Donc, en gros, c'est comme si vous preniez conscience de vos pieds. Voilà, je ressens bien le sol. Je me souviens de ce que j'ai fait hier pendant que je compte de 3 en 3 à haute voix. Au bout d'un moment, vous bloquez, vous saturez. L'inconscient, lui, il peut faire 2000 choses par seconde. Donc, comme disait Erickson, qui est très juste, faites confiance à votre inconscient. Parce qu'un symptôme se crée quand on veut faire consciemment quelque chose qu'on faisait déjà très bien inconsciemment. Donc, un symptôme, ça se crée quand il y a un conflit entre le conscient et l'inconscient. Je ne sais pas si vous l'avez senti un jour, cette fameuse boule au ventre, quand on est stressé. On peut vous faire une fibroscopie, il n'y aura rien dans l'estomac. Par contre, vous la ressentez, c'est psychosomatisé, c'est matérialisé, c'est votre inconscient qui envoie cette information-là. Eh bien, l'idée, ça va être aussi de travailler dessus. Avec l'inconscient, clac, on travaille dessus, plus de boule au ventre, plus de nœuds aux intestins, plus de... Voilà, tout ça, ça se travaille. Donc, quand le conscient, il dit non, non, je gère, l'inconscient, il dit non, non, tu gères pas du tout, regarde. Et hop, on a un bon symptôme qui arrive. J'explique dans le livre, il y a des symptômes très drôles, entre guillemets, enfin, qui peuvent être amusants. C'est que la force de la pensée ou des mots implique une réaction inconsciente. Si vous êtes habitué à dire « j'en ai plein la tête, ça me prend la tête », vous avez plus de chances de créer des maux de tête qu'une personne qui ne dit pas ça. Quelqu'un qui dit « j'en ai plein le dos, ça me pèse », etc., a plus de chances d'avoir des problèmes de sciatique ou des lumbagos qu'une autre. Parce que la pensée, la parole à créer, pour le cerveau, c'est voilà, il ne fait pas le jeu de mots, il ne fait pas tout ça. Donc, faire attention à ce qu'on pense, faire attention à ce qu'on dit, et surtout à ce qu'on pense, parce que ça implique directement notre corps et notre esprit. Et on le voit très bien, avec des personnes qui se prennent tellement la tête que l'inconscient, il burn out, hop, total. Au moins, l'inconscient, il se rassure que la tête, vous n'allez plus vous la prendre pendant un petit moment. Donc voilà.
Le burn-out étant l'épuisement professionnel.
Voilà, un gros épuisement, parce qu'on n'est plus apte à faire quelque chose tellement on a pris un gros coup, on n'est pas bien, voilà. Le burn-out, voilà.
Qui est un vrai problème de société, de santé.
Parce qu'on est trop dans le contrôle.
Santé publique.
Ouais. On est trop dans le contrôle. Apprendre à lâcher prise, c'est aussi admettre qu'on prend du temps pour soi aussi, pour se sentir mieux. Si vous ne prenez pas de temps avec vous-même, votre inconscient, il vous rattrape. Alors au début, c'est un petit symptôme. Exemple simple, la boule au ventre. Si vous dites « Oh, c'est rien, ça va passer », inconscient, ok, ça passe, mais ça revient. Ouais, bon, je prends un médicament, ça va passer. Mais si vous ne traitez pas la cause psychologique, cette boule au ventre-là, elle va transformer votre, on va dire, votre écologie au niveau de l'estomac et vous allez créer un ulcère. C'était parti d'une pensée qui était stressante. C'en est devenu une pathologie assez aggravante. Donc l'idée, c'est de ne pas attendre non plus trop tard. L'idée, c'est plus de prévenir que de guérir, mais dès qu'on a un petit truc, ça ne va pas être de prendre ce petit truc comme un bouchon, on l'enfonce dans l'eau, allez, je l'enterre, on n'en parle plus. Parce que le jour où il va vous échapper des mains, mais il va revenir encore plus fort que la première fois que vous l'avez eu.
Et même à l'inverse, je pense aux travaux de Jon Kabat-Zinn aussi, qui utilise la méditation pour lutter contre le stress, donc ouais. On peut aussi aller dans le...
Qui a mis ça en avant dans les fin des années 70. C'est vrai que ça...
Voilà, là, c'est vraiment utiliser tous les bienfaits de la méditation pour se sortir du stress.
Méditer, l'auto-hypnose, c'est pas les mêmes protocoles, mais on arrive à des mêmes états modifiés de conscience. Peu importe le chemin, le principal, c'est l'arrivée. Donc, le mentalisme, c'est ça, c'est d'avoir tous ces outils-là pour travailler sur soi, pour s'amuser, je dirais même s'amuser, parce que le travail, c'est plus cartésien, c'est plus cerveau gauche. Là, on oublie le travail, on pense à s'amuser, à aller mieux, à développer ses capacités, et puis aussi à devenir aussi un bon conseiller. D'apprendre un chapitre du livre, c'est le feedback. Ça, c'est utilisé en PNL, et ça peut être utilisé dans le sport aussi. Ça va être de faire un retour sur ce que quelqu'un fait. Et ça, on se rend compte dans la société qu'on ne sait pas réellement le faire. C'est « Oh là là, t'aurais pas dû faire ça, mais moi, à ta place, j'aurais fait ça. » On se met à faire de la projection, à rabaisser l'autre, etc. Et alors qu'un feedback, au contraire, ça va être de dire les choses avec un tact, une technique, qui permette à la personne de se rendre compte qu'elle fait les choses, qu'il y a du positif dans ce qu'elle fait, et qu'elle peut encore faire mieux, ou faire différemment. Et pour vous dire vite fait comment ça fonctionne comme un sandwich. Il y a du bon, du pas bon, du bon. C'est un peu comme les gélules qu'on prend. Si vous ouvrez la gélule, vous allez avoir la poudre médicamenteuse qui n'est pas très bonne à prendre. Mais si vous avez la bonne gélule, hop, vous prenez un verre d'eau, ça rentre tout seul. C'est la même chose. Ça va être, par exemple, vous voyez un enfant ou un sportif qui fait quelque chose, ça va être bon. Je vois que tu as fait des efforts, etc. Peut-être, donc on rentre dans le du peut-être, tu devrais penser à faire ça ou améliorer telle chose. Mais dans l'ensemble, c'était bien. Ça, c'est un feedback tout simple, mais c'est un feedback qui marche. Et en entreprise, on le voit, il n'y en a pas beaucoup qui le font. C'est « Mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais t'es nul !» Voilà, tout de suite, la personne en prend plein. Il y a des personnes qui font même du feedback inversé. Bon, ok, j'exagère, de temps en temps, c'est pas mal, mais en général, c'est nul. Voilà, là, on est dans l'inverse du cachet. Donc, l'idée, ça va être aussi de savoir parler, aussi bien à ses enfants qu'à ses proches et dans son milieu professionnel. Donc, le mentalisme, c'est appliqué au quotidien, professionnel et personnel.
Un art de vivre.
Voilà, une discipline, et c'est même une philosophie, parce qu'au final, on est altruiste, on est humaniste, on s'intéresse à l'autre. C'est intéressant de s'intéresser à notre personne, de travailler sur soi. Mais on en apprend encore plus quand on regarde les gens qui nous entourent, de les voir vivre, de savoir... Quand on rencontre quelqu'un, on se dit, l'idée, c'est pas de se dire, ah, bon, qu'est-ce qu'il veut, lui, regarde, t'as vu comment il est habillé. Voilà, le préjugé, la projection... Ça va être aussi de se dire, tiens, qu'est-ce que cette personne-là peut m'apprendre ? Et généralement, et ça, vous pouvez vous en rendre compte, quand on n'apprécie pas quelqu'un, pas pour quelque chose qu'elle vous a fait, mais juste, ah, cette personne-là ne me revient pas. Si vous posez la question du pourquoi, vous pouvez en apprendre énormément sur vous-même. Ah, je la trouve trop arrogante, cette personne. Ah bon ? Parce qu'elle te renvoie l'image de ta propre personnalité. Voilà. Et on peut se poser des questions comme ça. On se dit, mais pourquoi cette personne-là, j'ai du mal ? Qu'est-ce qu'elle renvoie de ma propre personnalité ? Donc on en apprend aussi sur soi. Et il y avait un professeur comme ça qui avait fait ça dans une université aux États-Unis, une boîte où il avait demandé à tout le monde de mettre son nom et de décrire la personne qui a détesté le plus et pourquoi. Le mettre dans la boîte. Puis à la fin, le professeur, il reprenait le texte et il mettait à la fin « c'est toi ». Cette personne-là, c'est toi. Et en fait, la personne disait, ouais, c'est vrai que de temps en temps, j'ai tendance à être. Donc l'autre devient aussi un reflet de ce qu'on est. Apprendre à vivre avec l'autre. Apprendre à vraiment utiliser tous ces outils-là, qui sont simples, contrairement à beaucoup d'idées reçues, qui sont simples à mettre en pratique. Après, on rentre dans des techniques plus compliquées, mais les bases déjà du livre, c'est applicable de 7 à 107 ans.
A priori, oui. Voilà. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci à vous.